Donc, je vais vous parler de choses qui sont, je l'espère, très, très en rapport avec cette journée et qui vous feront aussi, j'essaierai, découvrir certains aspects de la recherche en informatique en ce moment. Alors, le contexte, l'explosion des données, je crois que je vais passer très vite parce que tout le monde en est conscient maintenant, ce n'est plus la peine d'en parler. La croissance exponentielle, etc., on entend ça à peu près tous les jours à la radio. Alors, juste un petit zoom quand même, c'est sur l'individu. L'individu qui a des données sur des dizaines, des centaines de machines qu'il ne contrôle pas. Donc, vous avez des données un peu partout. Alors, ces données, j'ai essayé de faire la liste, certainement pas limitatif, mais il y a de tout, hein. Il y a des données que vous avez vraiment produites, et puis d'autres qui ont été coproduites. Il y en a qui ont été captées par des objets communicants. Il y en a qui ont été produites par des algorithmes. Quand un algorithme découvre, par exemple, Netflix, que vous aimez tel et tel genre de film, c'est une information qui est personnelle, qui vous concerne, c'est vos goûts personnels. Quand Netflix vous rapproche d'un autre utilisateur du système, Netflix, c'est des suggestions de films, donc ça va découvrir entre deux personnes un lien, qui est un lien extrêmement étroit. Ils aiment les mêmes films, mais ces deux personnes ne se connaissent peut-être même pas. Donc tout ça, c'est intéressant, et surtout, quand on continue, on s'aperçoit qu'il y a des tas de données un peu partout, sur plein de systèmes, et dans certains cas, vous n'êtes même pas au courant que ces systèmes stockent des données sur vous, les stockent pour 5 ans, 10 ans, peut-être plus, et donc des données dont vous n'avez pas conscience, que vous avez peut-être oubliées, elles sont quelque part. Donc ça génère des histoires comme le droit à l'oubli ou ce genre de choses. Bien, alors, tout ça irait bien, sauf qu'il y a un ressentiment croissant. Alors là, le mot-clé a déjà été prononcé, je trouve que c'est le mot qui décrit la situation, c'est l'asymétrie. Vous êtes tout petit et vous êtes face à des montagnes qui s'appellent le gouvernement américain, le gouvernement français et les autres, hein, ils sont pas différents. Vous êtes face à des montagnes qui s'appellent Google, Facebook, etc., Amazon. Et donc, il y a cette espèce d'asymétrie où ils savent plein de choses sur vous, ils en savent de plus en plus, et vous ne savez pas grand-chose, vous ne savez même pas ce qu'ils savent sur vous, et il y a une espèce de ressentiment. Alors, qu'est-ce qu'ils font de vos données, comment ils les utilisent, ben, tout ça, vous n'en savez rien. Et c'est, à mon avis, quand on commence à regarder le nombre d'articles, de discussions, alors je suis pas sociologue, mais je suis sûr qu'il y a des études qui ont été faites, il suffit de regarder autour de soi, et les gens commencent à trouver ça un peu insupportable. Hein, mais des trucs tout bêtes, hein, vous êtes en train de travailler, vous avez envoyé 2-3 mails Google, et puis tout d'un coup, vous avez une publicité qui vous arrive, vous rendez compte que cette chose qui était quand même assez personnelle, vos futures vacances, ben, c'est utilisé déjà pour vous envoyer de la pub. Alors, les alternatives, en tant qu'informaticien, je me dis, ben, il doit y avoir des alternatives techniques, et en fait, les alternatives ne sont pas tellement techniques, les alternatives sont des alternatives sociétales et des alternatives économiques. Alors, la première chose qui est de dire, ben, on va continuer à ne rien faire et on va continuer à avoir de plus en plus de données sur de plus en plus de systèmes. À la limite, c'est finalement pas si mal que ça, qu'il y ait beaucoup de systèmes, il n'y en a pas un qui domine tout. Et on va vivre dans un endroit où on ne peut pas faire ce qu'on veut parce que nos données, on n'arrive même pas à les croiser, on n'arrive pas à savoir ce qu'il y a dedans. Bon, c'est un bon plan pour les maladies psychosomatiques ou de tout genre. L'autre alternative, c'est de dire finalement ce serait bien s'il y avait un vainqueur. Alors le vainqueur, je m'en fous qui c'est, ça pourrait être Facebook, ça pourrait être Twitter, Google, je ne sais pas. Et il y a un jour quelqu'un qui aura toutes mes données. Alors ça, c'est simple parce que s'il y a toutes mes données, quand je cherche des données, je sais à qui les demander. Ça facilite vachement ma vie. Par contre, d'un point de vue liberté, ce n'est pas forcément très bien. Et moi, c'est le genre de choses qui me fait un peu peur. Alors, dans certains pays comme la Chine, ça pourrait être le gouvernement. Le gouvernement a toutes mes données. Je ne suis pas sûr que je préfère que ce soit le gouvernement que Google qui ait toutes mes données. Alors, dernière chose, dernière possibilité, c'est il y a des gens qui y arrivent. Il y a des gens qui arrivent à contrôler des données. J'ai des copains, je pourrais vous donner leur adresse, qui savent contrôler toutes leurs données. C'est un travail quotidien, il faut refuser tous les outils qu'on vous propose, etc. Il faut commencer par devenir un geek. Alors, si vous voulez, vous commencez par passer 1 ou 2 ans, si vous ne l'êtes pas déjà, à apprendre l'informatique, à apprendre à hacker les systèmes, etc., à apprendre la cryptographie. Vous ne communiquez plus qu'avec des amis qui utilisent aussi la crypto et vous êtes tranquille. Moi, je n'ai pas trop envie de vivre comme ça, mais c'est possible. Alors, est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Ben, c'est ce que je vais essayer de discuter avec vous ici. Une alternative qui est le PIMS. Le Personal Information Management System. Alors, ça va faire un peu marketing, hein, mais je n'ai rien à vendre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Personal Information Management System? C'est une autre façon d'organiser toute cette masse de données, hein, donc d'essayer de briser la symétrie. Donc, le problème, c'est la symétrie. Le problème, c'est ils ont tout et vous n'avez rien. Et donc, l'idée, c'est ben, moi, je vais avoir quelque chose aussi. Je vais aussi essayer d'avoir toutes mes données dans un endroit qui est à moi, que je contrôle. Alors, c'est là qu'il faut aller un peu plus dans le détail. Qu'est-ce que c'est qu'un service sur le web aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est le service d'Amazon, par exemple? D'abord, c'est un super logiciel. Le service d'Amazon, c'est quelque chose qui marche bien, qui vous conseille des livres, qui vous vend des livres, etc. C'est très bien. Moi, j'utilise. J'ai rien contre. Je veux continuer à l'utiliser. Facebook, je ne sais pas. Moi, j'aime bien. Je reste en contact avec mes amis. J'aime bien ça. Je ne vois pas pourquoi je n'utiliserais pas. Donc, c'est des très bons logiciels. Et ça, on ne va pas les jeter à la poubelle. Par contre, ces logiciels tournent sur des machines que je ne connais pas, qui ont mes données. Et les données, mes données sont sur ces machines et je ne sais pas où. Et c'est ça que je n'aime pas. Ce n'est pas les super logiciels. Les logiciels qui font ce que je veux, je suis très content. Donc, je vais voir si je pourrais avoir un peu le meilleur de tout. C'est-à-dire de super logiciels, les logiciels de Facebook, Google, etc., qui sont géniaux. Mais je voudrais les avoir qui tournent sur mes machines, sur mes serveurs ou sur mon serveur, et que mes données soient chez moi. Alors, la vie n'est jamais aussi simple. Hein. Ils vont vouloir aussi les garder. Mais ce n'est pas grave. Hein. Je veux bien qu'ils les gardent parce que je serai là, j'aurai quelqu'un qui négocie pour moi, mon système, qui négocie pour moi, qui défend mes intérêts. Et j'ai mes données. Si je ne suis pas content d'un service, je peux partir. C'est la portabilité, être capable de porter son application ailleurs. J'en ai marre de ce qu'on fait avec mes mails. Ben je vais faire mes mails ailleurs. Si j'ai toutes mes archives, il n'y a pas de problème. Mais si j'ai toutes mes archives qui ne sont même pas sous mon contrôle, je ne peux pas faire même ce genre de choses. Bien. Alors, pour arriver à résoudre ça, alors là, c'est pour ça qu'on aime bien en tant qu'informaticien, c'est qu'il y a des problèmes à résoudre. Le problème, c'est la sécurité. Il va falloir défendre mes données puisqu'elles sont sur un système. Alors, est-ce que je suis en plus mauvaise posture qu'avant? Non, parce que j'ai qu'un seul système à bétonner. Au lieu d'avoir à défendre des données, que je ne peux même pas défendre, à la limite, je ne peux rien faire avec mes données. Vous avez parlé tout à l'heure des données qui étaient dans des serveurs des télécoms et qui ont été piratées et j'ai perdu toutes mes données. Ben, sur mon serveur à moi, je pourrais peut-être les protéger plus. Alors, vous allez me dire, est-ce que je peux protéger mieux que Google et Télécom? Je ne sais pas. En tout cas, je peux essayer de protéger bien. Et peut-être que les gens auront moins d'intérêt à m'attaquer moi qu'ils ont intérêt à attaquer un gros serveur. Donc la sécurité, déjà, ce sera mieux puisqu'elle sera sous mon contrôle. Et puis ensuite, ce sera qu'un point plutôt que des dizaines de points qui ne sont pas sous ma responsabilité. Alors l'administration, ça c'est peut-être le point le plus compliqué. Vous et moi, on n'a pas envie de passer notre vie à administrer des systèmes. Moi, je n'ai pas envie, en tout cas, d'avoir à spécifier des tas de choses, de passer une heure tous les matins à définir mon système. Est-ce qu'on pourrait faire que j'ai rien à faire? En gros, c'est ça. Est-ce que je pourrais faire la zéro administration? C'est un sujet de recherche, hein, zéro administration. Et puis, le plus rare, c'est complètement dehors de mes compétences, c'est le business model. Hein. Toutes ces grandes plateformes, elles fonctionnent non pas en vendant du logiciel, mais elles fonctionnent en vendant vos données. En merchandisant vos données, d'accord. Donc ça, il faut, si on trouve un nouveau modèle, il faut qu'il y ait aussi un nouveau modèle business pour qu'il y ait un intérêt à faire ce genre de choses. Alors, c'est en train d'arriver, hein, contrairement à ce qu'on pourrait voir, c'est, si on regarde un petit peu, on s'aperçoit il y a des tas de signes un peu partout, ça avance, il y a déjà des choses qui arrivent. Alors, c'est dû d'abord à des progrès dans le logiciel. Je vous disais, un des gros sujets, c'est l'administration. Il y a 10 ans, administrer un serveur soi-même, c'était compliqué. Administrer un serveur aujourd'hui, c'est tout à fait bateau. Vous achetez un serveur chez OVH pour quelques euros par mois et vous avez votre serveur administré par OVH. Alors vous allez me dire, mais j'ai changé quoi? Ah, vous avez changé quelque chose de considérable. Vos données sur des serveurs comme Yahoo et Google, vous n'avez quasiment pas de contrat. Vous avez ces 30 pages que vous n'avez pas lues et que vous avez signées au bas. Chez OVH, vous avez un vrai contrat puisque vous payez. Donc il y a un service qui vous est rendu, et dans la première ligne de ce service, c'est que les données vous appartiennent et qu'ils n'ont absolument rien le droit de regarder dedans. Alors, il y a plein d'autres services. Alors, l'open source, c'est quelque chose qui est assez important dans ce système, parce que si vous voulez, par exemple, faire de la sécurité, si le logiciel est open source, vous pouvez regarder ce qu'il fait. C'est très compliqué quand vous êtes, par exemple, sur Facebook et qu'on vous dit « Est-ce que vous voulez installer cette application ?» Non, je ne veux pas installer cette application, je ne sais pas ce qu'elle fait. D'accord? Et à la limite, si le système est open source, est-ce que je vais perdre mon temps à aller regarder ce qu'il fait? Moi, non. Mais des associations de consommateurs, oui. Des copains informaticiens, oui. Il y a quelqu'un qui aura regardé. Donc, on est dans un modèle complètement différent. Il y a des très bons logiciels en open source. Et parce qu'ils sont open source, on sait exactement ce qu'ils font. Et donc, on sait si on a confiance ou pas. Et puis, je parlais déjà du prix de l'hébergement des machines. Maintenant, ça ne coûte pas grand-chose. C'est-à-dire que ce n'est plus un frein au développement de ce genre de système. Il y a plein de projets partout, des projets de recherche. Il y a des start-up qui commencent à se monter sur des aspects très... des créneaux, hein, comme vous pouvez gérer vos mails chez vous. Hein, c'est tout bête. Ou vos liens avec... il y a un truc qui s'appelle VRM, Vendor Relationship Management. Vous pouvez gérer tous vos liens avec les gens chez qui vous achetez quelque chose à partir d'un système unique. De la même façon que, je sais pas, un vendeur, la Fnac, gère un logiciel qui gère tous ses clients. Ben vous pouvez gérer tous les gens chez qui vous achetez. C'est pas mal non plus. Alors, il y a aussi des mouvements de divulgation de données. En France, il y a Mes Infos, qui est poussé par la FING, qui demande justement à ce que vous puissiez récupérer vos infos, et donc ils travaillent avec des commerçants, avec des banques, pour que vous puissiez avoir accès, par exemple, à vos informations de banque. C'est quand même dingue que vous n'ayez pas accès dans un format que vous pouvez utiliser dans une base de données à vos informations bancaires. Alors, il y a deux raisons aussi pour lesquelles ça peut avancer, c'est qu'il y a des grandes compagnies qui commencent à être très intéressées par ce sujet. Alors, il y a toutes les compagnies, ce que j'appelais les entreprises pré-Internet, comme les banques et les hôtels, qui sont en train de perdre la médiation avec leurs clients. Il se trouve que maintenant, ils ont, je ne sais pas, si vous êtes un hôtel, vous avez Booking entre vous et vos clients. Et c'est particulièrement insupportable parce que si vous n'avez plus de contact directement avec vos clients, ben, petit à petit, vous êtes exclu de ce qui se passe vraiment. Donc, par l'intermédiaire de ces PIMS, ils peuvent récupérer ce genre de contact. Donc, ils sont très intéressés. Ils sont intéressés par des choses comme Mes Infos aussi, dont j'ai parlé. Et puis, il y a les gens qui votent, qui font les N-Playbox, la Freebox, toutes ces boîtes qui sont chez vous et qui sont devenues des commodities. Maintenant, ça ne coûte plus rien. C'est fabriqué pour moins de $100 en Chine. Mais si on leur rajoutait des fonctionnalités, ça les intéresse pour retrouver un certain marché, redévelopper des liens avec leurs clients. Bien. Alors, rapidement, les avantages, et je suis désolé si ça part un peu marketing, ça permet d'aller vers un monde meilleur. Donc, les utilisateurs contrôlent leurs données. Les utilisateurs deviennent plus autonomes. Donc, il faut qu'ils apprennent l'autonomie. On tombe sur des aspects comme la littératie numérique. Et ils construisent un web plus neutre. Donc là, j'ai pas le temps de rentrer là-dedans, mais je vous pointe vers un avis du Conseil national du numérique qui va sortir sur la neutralité des plateformes auquel j'ai participé et qui dégage un certain nombre de choses à faire pour rendre ce monde un peu plus vivable dans nos liens avec ces grandes plateformes. Alors, des aspects juridiques, il y a des aspects aussi auxquels je crois beaucoup, moi, c'est les associations de consommateurs. Ces grandes entreprises du web sont très, très sensibles à la publicité qu'on leur fait, à l'image qu'elles projettent. Pourquoi ? Parce qu'essentiellement, elles fonctionnent parce qu'elles ont une image. Vous pouvez quitter demain matin Facebook, si vous n'êtes pas content, vous pouvez quitter demain matin Google. Donc, cette image est très importante et c'est une des façons d'agir sur elle le plus... Et puis, il y a les PIMS dont je parle ici. Alors, d'autres choses aussi très rapidement. À partir du moment où vous avez toutes vos données au même endroit, vous pouvez faire quelque chose que vous ne pouvez plus faire aujourd'hui, c'est faire une recherche dans vos données, une recherche sémantique. Vous avez, je ne sais pas moi, vous êtes allé manger avec cet ami, mais vous ne vous rappelez plus quand et vous ne vous rappelez plus où, et bien vous pouvez retrouver ça dans toutes vos données. Peut-être qu'il y a un email qui a été échangé, peut-être vous l'avez marqué sur votre agenda, peut-être vous l'avez publié sur TripAdvisor, vous ne vous rappelez plus. D'accord. Mais en croisant toutes ces informations, en croisant toutes vos données perso, on peut trouver ce genre de choses. J'ai parlé déjà de contrôler vos données, donc gestion des contrôles d'accès. Synchroniser des tâches. Vous voulez faire des choses qui mettent en jeu plusieurs systèmes. Je ne sais pas, faire une tâche répétitive qui est j'écris un petit texte, je le publie sur Twitter, mais je le mets aussi dans mon blog et j'avertis quelques amis. Essayez de faire ça aujourd'hui. Vous avez un blog, Twitter et votre mail qui sont sur trois systèmes différents. C'est totalement impossible de le faire. Alors, encore une fois, si vous passez un an à devenir hacker, vous arriverez à le faire. Mais là, ce qu'on parle, c'est d'arriver à avoir des systèmes qui vous permettent de le faire sans effort. D'accord ? échange d'informations entre les services et les amis, on est en train de parler d'échanges différents, puisque maintenant vous avez votre propre centre de données, il peut négocier directement avec vos amis sans passer par un système comme Facebook ou un autre. Contrôle des objets connectés, qui va devenir un vrai problème quand vous allez avoir des tas d'objets, votre voiture, votre téléphone, votre frigidaire, votre chauffage, etc. Tout ça est connecté, mais qui gère tout ça? C'est vous qui allez devoir les gérer un par un? Vous allez passer votre vie à faire ça. Et puis, bien sûr, puisque ici on parle de big data, faire de l'analyse big data. Mais on est dans un mode différent. On raconte des tas de choses sur big data, mais la grande utilisation du big data aujourd'hui, c'est par ces grosses plateformes pour analyser toutes leurs données et vous vendre des trucs. Il y en a plein d'autres de possibles, mais la grande utilisation, c'est ça. À partir du moment où vous avez vos données qui sont regroupées, enregistrées, analysées, vous pouvez faire du big data sur vos données. Un système peut faire du big data sur vos données et puis être à votre service. Je ne sais pas, moi, surveiller votre alimentation, surveiller votre vie, surveiller votre santé et plein d'autres choses, puisque c'est à votre service. Bien. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous m'envoyez un mail et je vous enverrai un article qu'on est en train d'écrire là-dessus avec Benjamin André, Cozy Cloud. C'est une petite boîte, une petite start-up qui essaie de développer un PIMS, et Daniel Kaplan de la FING qui milite pour ce genre d'approche. Et pour le reste du temps, il me reste combien de temps ?
Encore un bon quart d'heure.
Bon, alors je peux ralentir un peu. Pour le reste du temps, je vais essayer de voir en quoi le fait d'avoir vos données qui se réunissent, ce qui pour moi me paraît être une étape à venir du web et de... Alors encore une fois, ce n'est pas forcément dans les PIMS, dans quelque chose que vous contrôlez, ça c'est ce que j'aimerais bien. Mais ça peut être toutes vos données regroupées chez un seul fournisseur, ce que j'aime moins, ou dans un gouvernement, à la communauté européenne. Je ne sais pas si je préférerais que toutes mes données soient regroupées à la communauté européenne ou chez Twitter, je ne sais pas. Je préférerais que ce soit sur un de mes serveurs. Mais imaginons déjà que ça arrive, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors, ce qu'on peut faire avec ça, et moi c'est ce qui m'intéresse et c'est là-dessus que porte ma recherche, c'est passer d'un système d'information dans lequel vous avez toutes ces informations, les textes que vous avez écrits, vos mails, les recommandations que vous avez pu faire dans des systèmes quelconques, etc. Plein d'informations. Faire transformer ça en une base de connaissances, c'est-à-dire arriver à créer de la connaissance autour de ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable d'identifier dans ces textes des entités comme des amis, dans un mail, à qui est adressé le mail, c'est un ami, donc reconnaître que c'est cette personne. Dans le mail, vous parlez de quelqu'un d'autre, c'est un ami, reconnaître que c'est une personne. Donc reconnaître un petit peu les événements, les personnes, les lieux, les sentiments à l'intérieur de tout ce système d'information et construire une base de connaissances à partir de tout ça. Alors, l'idée, c'est que des ordinateurs, des téléphones, des tablettes, des voitures, des objets communicants, ça ne parle pas en français, en anglais ou en chinois, ça échange des connaissances. En général, dans des formats beaucoup plus stricts que des chaînes de caractères. Vous avez votre voiture, elle ne va pas raconter un texte à votre télévision. Votre voiture, elle va envoyer un message très précis, formaté à votre télévision ou à votre téléphone. Donc tous ces objets vont s'envoyer des connaissances. Et puis vous allez avoir toutes vos informations, vous allez les transformer en une grande base de connaissances et vous allez être entouré de toutes ces machines, si vous voulez, tous ces systèmes qui en permanence vont travailler pour vous en analysant l'information, en extrayant l'information de vos mails par exemple, en la stockant ou en analysant l'information à partir des analyses big data dont tout le monde parle. Et puis toute cette connaissance, ils vont se l'échanger, ils vont inférer des connaissances, et puis vous allez baigner, non pas dans un monde informationnel, on est déjà dans un monde informationnel, mais dans un monde de connaissances. Et alors ça change quoi? Avant ça, je vais faire une petite digression, j'avais dit que je vous parlais un petit peu de recherche en informatique, donc sur quoi porte ma recherche? C'est de travailler sur des langages, un langage de règles, donc un langage déclaratif, qui permet de spécifier ce qu'on veut plutôt que de spécifier véritablement des programmes. Donc c'est un peu dans l'idée d'aller vers les littératies numériques, mais la littératie numérique, ça veut dire de prendre des individus et de les rendre plus savants, en leur apprenant notamment à programmer, mais ça veut dire aussi d'apprendre aux machines à se rapprocher des personnes en utilisant des langages qui ressemblent plus à la façon de penser des personnes que les langages informatiques qu'on utilise aujourd'hui. Donc c'est un peu dans cette zone entre les deux. Donc on va gérer des connaissances distribuées, vous allez voir évidemment le lien avec le transparent précédent, la diapositive précédente. On gère des connaissances, ces connaissances sont distribuées sur plein de systèmes, plein de machines. Donc on va être amené à raisonner dans ce monde distribué, ce qui est un peu compliqué techniquement. Et les difficultés, à part cette distribution, c'est le fait que les données sont imprécises et incohérentes. Nous avons des êtres humains. D'accord. Donc des êtres humains, par définition, publient des choses qui sont imprécises, voire fausses. Et donc là, en point de vue logique, c'est un tout petit peu compliqué parce que quand on fait de la logique, raisonner sur des mondes dans lesquels il y a des opérations, des informations fausses, ça vous permet de déduire à peu près n'importe quoi, donc il faut faire un petit peu attention. Donc nous, on gère ça en travaillant sur des logiques un peu probabilistes, dans lesquelles les faits ne sont pas vrais ou faux, mais vrais avec une certaine probabilité. L'autre chose, c'est que vous êtes dans un monde ouvert, c'est-à-dire que vous n'avez pas toutes les informations. Une bonne vieille logique, vous avez tous les faits, vous vous amusez à dériver, à essayer de prouver des choses, on comprend bien. Là, vous êtes dans un monde ouvert, c'est-à-dire que dans un moment donné, il vous manque une information, il vous manque un fait, vous allez à chercher sur le réseau. Donc vous allez poser des questions à d'autres systèmes, d'autres machines, et vous n'avez peut-être pas accès à cette information, donc il y a des contrôles d'accès. Où on peut vous donner la réponse, mais on ne vous dira pas comment elle a été dérivée. Donc après, vous allez avoir une preuve, mais sans être capable de démontrer qu'elle est correcte. C'est un petit peu compliqué. Et puis, vous allez vous échanger des connaissances en même temps que vous échangez des faits. Donc c'est là-dessus que je travaille. Fin de la digression. Revenons à ce monde de connaissances, et je vais essayer de vous expliquer en une diapositive pourquoi c'est vers ça qu'on doit aller. Alors premièrement, si on veut intégrer toutes ces sources de données, hein, j'ai mes données sur plein de systèmes différents, je vais tout récupérer chez moi. Si je veux intégrer tout ça, il faut que je sois capable de faire les liens entre des données dans plusieurs systèmes. Il faut que je sois capable de faire des liens entre cette personne dont on parle dans l'email et cette entrée dans ma liste de contacts et ce mail d'une autre personne, etc. Donc il faut que j'arrive à faire le lien entre tout ça, donc il faut que j'intègre des données et de l'information. Et pour faire cette intégration, la seule façon qu'on a trouvée, c'est de transformer ça en connaissance. On peut faire ça de façon plus ou moins propre, on peut faire ça de façon plus ou moins heuristique, tout ce qu'on veut, mais à un moment donné, ce n'est pas du texte. On n'intègre pas un poème de Verlaine avec un texte de Chateaubriand. On ne sait pas faire ça. On extrait à la limite des connaissances de ces textes et c'est les connaissances qu'on va intégrer. On va faire collaborer des services, et pour faire collaborer des services, il faut qu'ils se parlent. Et s'ils se parlent, on est en informatique, on se parle avec des choses structurées, on ne se parle pas avec du texte. Donc pareil, on est obligé de passer de l'information aux connaissances. On est obligé de faire de l'inférence, donc du raisonnement, et pareil, on raisonne avec des connaissances, on ne raisonne pas avec du texte. Alors évidemment, il y a des interactions en permanence avec les humains. Et ces interactions, ben, les humains, eux, ils ont plutôt tendance à parler en français ou en anglais qu'en langage formel, en langage de connaissance. Et ben, il y a des difficultés, mais il faut quand même qu'ils puissent spécifier ce qu'ils veulent et interagir avec le système. Alors, où ça change tout ? La première chose, c'est l'individu. L'individu, la personne dans ce sens, pas la machine, mais la personne a récupéré le contrôle de toutes ces données et peut faire tout ce qu'elle veut avec. Donc ça, c'est la base, c'est pour ça qu'on l'a fait et éventuellement on est arrivé. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ça change complètement les rapports entre individus, ça change complètement les rapports entre individus dans le sens où ils peuvent faire du réseau social sans passer par un intermédiaire, ils peuvent s'échanger des données de façon directe, en point à point, sans passer par un intermédiaire, ils peuvent se mettre dans des communautés qui choisissent. D'accord. Donc, ce n'est pas pour dire que c'est inintéressant d'avoir un Netflix qui est capable de faire des liens entre des personnes qui ne se connaissent pas. Ça restera toujours intéressant. C'est toujours une connaissance importante de savoir qu'il y a quelqu'un dont vous n'avez jamais eu la moindre idée qui a les mêmes goûts que vous et ça va vous aider à choisir vos films, c'est très bien. Mais vous avez aussi envie de vous organiser en réseau, vous organiser dans des communautés. Alors le point que j'ai oublié de mettre sur ce, ce, cette diapo, mais qui est essentielle aussi, cela change évidemment l'asymétrie entre les plateformes et vous. Puisque vous êtes de nouveau le contrôle de vos données, vous l'avez, et donc vous avez un petit peu rétabli cette espèce de symétrie qui est nécessaire pour que tout soit acceptable. Alors, ça ne règle pas tous les problèmes. L'analyse de volume de données, les 4 V, pour ceux qui connaissent les 4 V du Big Data, sont toujours là. La seule différence, c'est que cette fois, ce n'est plus les données de la plateforme, c'est vos données à vous. Éventuellement, ça peut être les données d'un groupe d'utilisateurs, les groupes d'utilisateurs de PIMS, sur une plateforme de PIMS. Mais encore une fois, il faut voir ce que ça a changé. Quand vous êtes dans une relation où vous n'êtes que client d'une plateforme, vous n'avez rien à dire. D'accord. Si vous avez mis vos données sur un système personnel qui est géré par une plateforme qui gère tous ces systèmes personnels, vous avez choisi votre contrat. D'accord. Et donc, il y a un engagement parce que vous êtes client, parce que vous payez. Donc, c'est vrai que là, il y a peut-être le truc sur lequel je suis passé un petit peu vite. La différence, c'est que vous payez votre service. Donc, du coup, vous n'êtes plus le produit, vous êtes le client. Et ça change complètement tous les rapports que vous allez avoir avec le système qui gère votre Personal Information Management System. Alors, du coup, comme vous payez, vous voulez que ce système, s'il fait de l'analyse de données, par exemple, le fasse à votre service. C'est complètement différent. C'est vous qui décidez quel service vous voulez. Est-ce que mes données peuvent servir à tel type d'analyse? C'est vous qui choisissez. Ce sont vos données et vous payez le service. D'accord. Alors, il reste quand même les problèmes qui vont pas changer. Où est-ce que se trouve l'information? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Enfin, ça, c'est un sujet qu'on rencontre de plus en plus. Qu'est-ce qui est vrai sur la toile? Dans toutes les informations qu'on vous donne, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Alors, la question, c'est que dans le temps, vous aviez votre journal, vous avez confiance dans Le Monde, parce qu'en général, ils disent la vérité. Vous aviez confiance dans tel et tel ami, parce qu'en général, ils disent la vérité. Bon, vous aviez votre réseau avec vos interlocuteurs en qui vous avez confiance. Maintenant, il y a des millions de sources de données, des milliards de sources de données en qui vous avez confiance, en qui vous n'avez pas confiance, qui dit la vérité. C'est compliqué, ça ne peut être que déterminé par des machines, par des algorithmes. Ce n'est pas vous qui allez chercher tout ça. D'accord ? Donc, où est la vérité? C'est compliqué à trouver dans un monde qui est ouvert, qui est distribué. Il n'y a pas tout le temps qu'une seule vérité, évidemment. Comment expliquer les réponses? Je vous l'ai dit encore sur où est la vérité. Je ne parle pas forcément de vérité au sens de vérité importante comme dans Wikipédia. C'est important, ça aussi. Est-ce qu'un fait est vrai ou pas dans Wikipédia? D'accord. Le système de Wikipédia est fait de telle sorte qu'il maximise relativement la vérité, mais on peut quand même se poser la question sur ce genre de système. Mais maintenant, qu'est-ce qui est vrai dans votre réseau social? Vous demandez à votre système où se trouve Alice, et le système arrive en disant « Alice se trouve à Londres ». Est-ce que c'est vrai? Parce qu'il y a quand même quelques personnes qui vous ont dit qu'elle était à Paris. Alors, est-ce qu'elle est à Londres ou est-ce qu'elle est à Paris? Alors, c'est peut-être pas aussi important que les informations sur... je ne sais pas, moi, le président des États-Unis, mais pour vous, c'est important de savoir où est Alice, d'accord? Vous cherchez à la contacter. Comment expliquer les réponses? C'est pareil, dans votre monde, c'est important qu'on vous explique le résultat. Moi, j'aime bien le big data, mais si on vous dit, voilà la réponse, et le système a mouliné, il a fait 2 548 000 inférences, il a utilisé des faits probabilistes partout dans le monde, comment je sais si c'est vrai ou pas? Est-ce que vous pouvez me donner une explication sur quels sont les faits? Bon, vous me dites qu'Alice est à Londres, mais comment vous êtes arrivé à déterminer ça? Quel est le fait qui a été le plus important pour déterminer ça? La protection de la vie privée, ça a été mentionné, je ne vais pas en parler ici, mais il faut bien avoir conscience que tout ça, ça va dans le même sens, que c'est à terme, c'est en train de devenir un sujet primordial. Alors, après tout ça, où est-ce qu'on en arrive? Ben, on en arrive, je voulais juste terminer par le système, le problème qui se dessine. Je mentionnais beaucoup de problèmes et pas beaucoup de solutions. Mais le système qui se dessine, c'est... alors, qu'est-ce qu'on commence à voir? Des machines qui vont gérer des connaissances pour vous. Il y en a déjà, et il y en a qui vont faire des choses très, très complexes. Des machines qui vont faire votre diagnostic médical, par exemple. Bon. Et puis, elle décide pour vous, ça devient un peu plus délicat, et on voit déjà les dérives, hein, la bourse automatisée. on a vu des dérives. Les usines automatisées, là jusque-là, pour l'instant, c'est plutôt positif, mais bon, sauf peut-être sur le travail. Les métros, les voitures, les avions automatiques, tout devient complètement automatique. Alors, il y a les drones tueurs dont on a beaucoup parlé récemment. Est-ce qu'un juge peut devenir automatique? C'est-à-dire un juge qui aurait de l'intelligence artificielle, qui serait quasiment aussi intelligent qu'un juge normal et qui n'aurait pas ses biais, pourrait-il décider, je ne sais pas, on n'a pas de peine de mort heureusement en France, mais dans les drones tueurs, il y a la peine de mort qui est établie. Voilà, c'est ce que je voulais raconter et je vais m'arrêter là. Merci.